Bonjour et bienvenue pour ce nouveau débat dans le cadre des rencontres des acteurs publics organisées en partenariat avec et au Conseil d'État. Des rencontres consacrées cette année à la question de la préparation aux grandes crises, thème évidemment d'actualité puisque nous avons connu 18 mois de crise, crise qui n'est toujours pas terminée, la crise sanitaire bien sûr, et crise qui a consacré l'émergence d'un acteur que nous connaissions mais dont nous avons vu toute l'importance, c'est l'expertise et les experts. On a bien vu aussi qu'à l'avenir, on allait peut-être avoir beaucoup plus souvent à gérer des situations de crise. On l'a vu, il y a eu la menace terroriste, la crise sanitaire, il y aura peut-être demain des défis environnementaux ou d'autres pandémies. Dès lors, il faut davantage se préparer, davantage travailler ensemble entre experts et décideurs pour parvenir à un résultat encore plus optimal. Comment piloter, comment s'organiser, quel niveau d'indépendance. Pour en parler avec nous, quatre invités. Marie Grosset, bonjour. Alors, vous êtes maître des requêtes au Conseil d'État et rapporteur à la section du rapport et des études. Vous avez coécrit cette étude et vous êtes par ailleurs très investi sur les questions de santé publique. En face de vous, Anne-Yvonne Le Dain, bonjour. Vous êtes scientifique de formation, vous avez également été député. Merci à vous. À vos côtés, Cédric Villani, bonjour. Bonjour. Député LREM, ancien député LREM, pardon. Non inscrit, excusez-moi. Et vous êtes mathématicien toujours également, mathématicien. Toujours à vie. Quatrième invité qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même présenter, Jean-François Delfrécy, bonjour. Vous êtes le président du Conseil scientifique et vous avez été l'un des visages de cette crise. Merci à tous les quatre d'avoir accepté l'invitation. Vous aurez donc chacun d'entre vous un micro. On va peut-être commencer avec vous, Marie Grosset. Je le disais, il y a ce rapport du Conseil d'État consacré sur l'état d'urgence, cette démocratie sous contrainte, dans lequel vous vous interrogez, c'est l'un des points, sur la question de l'expertise, et vous revenez notamment sur ce que l'on peut faire pour améliorer les rapports entre les différents centres d'expertise, mais aussi ce qu'on peut faire pour essayer d'être meilleur en termes de pédagogie. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les quelques préconisations ?
Oui, tout d'abord, rappeler que nous sommes partis du constat que le travail de l'expert est indispensable en période de crise, indispensable pour identifier cette crise, l'objectiver, désenchanter le réel, disait Raymond Aron, pour avoir une approche la plus sereine possible, même si on est dans des situations très, très délicates, pour appréhender cette crise de façon objective. Et nous avons en France la chance d'avoir de multiples instances d'expertise, de multiples voix, mais nous avons fait le constat que l'ensemble de ces voix ne sont pas toujours concordante. Alors, c'est le jeu de l'expertise. Une bonne expertise, elle est plurivoque, elle est pluridisciplinaire. Et dans le monde scientifique, on sait que c'est difficile de parvenir à une réponse unique. Donc, ce n'est pas l'unicité qu'il faut chercher, mais de chercher tous ensemble, à plusieurs, les meilleures réponses. Et c'est pour ça qu'il faut une organisation optimale de crise. Et donc, nous avons réfléchi durant cette étude. Nous avons regardé ce qui s'était passé, non pas uniquement pour la crise sanitaire, pour les autres crises aussi qui ont précédé. Nous avons regardé ce qui se passait aussi dans les autres pays occidentaux et nous avons formulé deux axes de propositions, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Un premier axe pour essayer de mieux structurer et coordonner l'expertise publique auprès des décideurs, pour essayer de leur donner une expertise toujours mise à jour, toujours plus qui se remet en question et qui avance au fur et à mesure des données acquises de la science. Et c'est une extrêmement difficile, et le professeur Delfrécy ne me mentira pas sur ce point, je pense. Et donc ce travail extrêmement difficile, c'est le premier axe. On essaye de proposer une façon de faire remonter de façon plus optimale l'ensemble des circuits d'expertise qui existent déjà, pour mieux les structurer et les coordonner. Et nous proposons que ce soit fait sous l'égide du Secrétariat général de la Défense nationale et de la Sécurité, lorsque la crise est très importante, la crise est majeure, qu'elle a justifié un état d'urgence, pour avoir une coordination, une meilleure coordination. Ça, c'est le premier axe de nos propositions. Et le second axe Il part aussi du constat que cette expertise, elle est parfois difficile à comprendre pour le public. Parfois, il y a une impression de cacophonie, une impression de confusion. Nous nous sommes demandé s'il n'était pas nécessaire d'avoir une instance indépendante qui puisse relayer ces expertises plurielles auprès du public et de l'opinion publique. Et nous avons proposé de confier cette mission à l'Office l'OPEXC, qui est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques, qui a la grande qualité d'être une instance commune à l'Assemblée nationale et au Sénat, qui a déjà une très grande expertise sur ces sujets, qui connaît déjà, qui est habitué à travailler avec beaucoup d'acteurs. Et il nous a semblé intéressant, c'est une piste de réflexion, de confier à cet office de recueillir ces différentes expertises, ces différentes voix, de partager cette information et de faire ce travail de transparence et de pédagogie auprès du public.
Cédric Villani, ça vous convainc ce type de piste-là? Est-ce que vous pensez qu'on peut avec ça arriver à avancer?
D'abord, en tant que président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, je suis très fier que vous ayez pensé à notre institution pour réaliser ce rôle. Et c'est une piste que nous sommes tout prêts à explorer. L'OPEXT a été fondé, je rappelle, dans les années 1980, quand il s'agissait de fournir une expertise aux parlementaires sur des sujets hautement scientifiques et hautement politiques. Historiquement, c'était le nucléaire pour commencer. Et c'est élargi pour fournir une expertise à expertise, a élargi son champ d'expertise à tous les sujets, avec aussi la volonté d'aller davantage vers le public, vers l'information du citoyen et vers la mise en débat public. Il nous est arrivé, par exemple, au cours de cette crise, d'organiser l'audition publique de nombreux acteurs, dont le professeur Jean-François Elfrécy. Je pense que toutes les auditions publiques que nous avons réalisées, c'est celle qui a attiré le plus de monde et qui a donné lieu à plus de questions publiques. Et notre rôle est bien évidemment de placer la question de l'expertise au cœur du débat politique et citoyen.
Anne-Yvonne Ledin, est-ce que vous avez un...
Moi, j'ai été vice-présidente de l'OPEX pendant 5 ans. Donc, et je partage complètement ce que vient de dire Cédric Villani. Je crois qu'on a un rôle à jouer de manière plus puissante. Le monde politique auquel nous appartenons, nous sommes parlementaires, a peu tendance à nous considérer comme des experts, mais comme tous les experts, un petit peu à côté. Et d'entendre que des éminents juristes commencent à dire qu'on a besoin de lieux de concentration officielle visible dans lequel les différentes expertises viendraient s'exprimer. Parce qu'en fait, quand on organise des tables rondes, parfois, autour de la table, il y a 10, 15, 20 personnes qui chacune s'exprime pas seulement en son nom, mais au nom de l'institution qu'elle représente. Et c'est important. Sur des sujets, effectivement, ça avait commencé par le nucléaire, mais quand j'y étais, j'avais attaqué la question des semences, qui n'était pas du tout un sujet à la mode à l'époque, alors que maintenant, c'est dans le champ du débat très lourd, puisqu'on est sur les ressources génétiques, et donc sur la biodiversité, donc sur beaucoup d'autres choses. Et donc, je crois qu'effectivement, l'OPEX, c'est de dire que des parlementaires qui ont une vie scientifique, un passé scientifique, qui savent ce que c'est que la démarche scientifique, qui savent à quel point c'est une itération complète, à quel point les choses sont un peu complexes, mais qu'on peut quand même arriver à les segmenter pour les rendre lisibles et audibles, et donc à transformer quelque chose de gigantesque et de compliqué pour le commun des mortels en quelque chose de faisable, à un moment donné. La vérité, elle est vraie à un moment donné. Sauf un certain nombre de choses dont on sait, mais là, personne ne le conteste. Mais alors qu'on est dans des moments où tout le monde conteste tout. Or, la science est là pour dire non, ça, on le sait, et ça, on ne le sait pas. Pas encore. Ce qui est un petit problème pour les scientifiques d'arriver à rentrer facialement dans le débat public, parce qu'ils ont un petit peu tendance à dire, à terminer toute leur démonstration par « en l'état actuel des connaissances ». Et le « en l'état actuel des connaissances », aux yeux des journalistes, je voudrais qu'on parle aussi du rôle de la puissance des médias, aboutit « Ah, mais vous n'êtes pas sûr !» Ah ben donc, on va faire avec les gens qui sont sûrs et qui disent non, ou qui disent oui. Alors que la science et le progrès sont continus, et que les scientifiques sont massivement des gens extrêmement brillants et intelligents et très cultivés.
Professeur, ce côté, le doute, ce doute-là, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer lorsqu'on est en responsabilité et qu'on doit formuler un message aux politiques, comme vous l'avez été, mais par-delà, à l'opinion.
Oui, sûrement. Enfin, le doute, hein, pour un scientifique, ça fait partie de son ADN. On construit la science en doutant. Si on ne doute pas, Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dirais même que c'est vrai en médecine. Au bout d'un moment, il faut bien que le médecin décide et propose à son patient plutôt tel ou tel type de stratégie. Mais il faut qu'il doute avant, il faut qu'il puisse discuter, il faut que ce soit une décision, et on le voit maintenant, qui se fait de plus en plus en communauté. Donc la question, en fait, moi, que je retiens, c'est d'abord beaucoup d'humilité pour un conseil scientifique, parce que comment peut-on, je dirais, éclairer les autorités politiques alors qu'on est en plein terrain d'incertitude ? Et c'est là où est toute la difficulté. Et souvenez-vous, sur des choses très simples, hein, le fait que les patients asymptomatiques transmettaient, alors que c'était complètement différent avec les SARS précédents, sur là où on se contamine, il a fallu des papiers importants qui sortent qu'en décembre 2020 dans l'enquête de Pasteur. Vous voyez encore maintenant sur quelque chose de très solide, qui est la réponse vaccinale, les questions qu'on se pose encore, l'évolution qu'il y a, cette distinction entre la protection contre les formes sévères et finalement une protection relativement faible contre l'infection.
Vous avez l'impression que l'opinion a progressé ou que l'expert est pris avec davantage de précautions, voire peut-être même qu'il aurait perdu en crédibilité.
Moi, je remercie d'abord les Français, contrairement à ce que veulent bien nous dire les médias, qui ont été extrêmement compliants sur des mesures extrêmement difficiles, hein, qui touchaient à leur liberté, qui leur donnaient un certain nombre de contraintes, et l'immense majorité des Français les a acceptées. Hein. Et on ne le dit pas suffisamment, les médias nous montrent en permanence ceux qui refusent tout, alors que regardez où nous en sommes, par exemple, en termes de stratégie de vaccination. Alors, sur la relation autour du doute, ça c'est un élément important, dans la relation entre science et politique. Le scientifique doit douter. Le politique ne doit... Il peut douter. Moi, je pense qu'il doute aussi. Mais dans son type de métier, il est amené à ne pas douter. La notion du doute...
Ça peut être perçu comme une faiblesse.
En termes de cinétique, n'est pas la même. C'est peut-être particulièrement vrai dans notre modèle français, hein, où l'immense majorité des grands décideurs en France sont issus de parcours très particuliers, où la culture scientifique n'est pas forcément au rendez-vous. Si vous regardez ce qui se passe, par exemple, en Allemagne, dans le mélange qu'il peut y avoir entre les grands décideurs, les politiques, les membres des cabinets, une grande majorité d'entre eux sont doctors. Docteur, ça veut dire avoir passé une thèse, entre guillemets, donc avoir eu, quand on était entre 20 et 25 ans, la notion du doute qui s'installait. Et donc ça, c'est quelque chose de... Enfin, c'est un des points qui, dans la discussion entre le scientifique et le politique, est un des points, je dirais... Qui est là, qui est présent dans la discussion.
On a aussi en France un système de formation des élites qui est complètement différent. On a d'un côté l'université, puis de l'autre côté, on a les élites d'État qui fournissent pas mal de décideurs politiques. Est-ce que vous pensez que ça aussi, Marie Grosset, ça peut jouer aujourd'hui dans la façon dont on fonctionne ?
Moi, je crois surtout que le monde change et qu'il y a de plus en plus de passerelles. On est universitaire et puis on devient membre d'une institution. On fait une grande école et puis on s'arrête et on fait une thèse. Il y a beaucoup de passerelles. Donc, je ne sais pas s'il faut toujours cloisonner les approches. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a une grande richesse. Il y a une grande richesse et le doute, comme vous venez de le dire, il est indispensable pour les décideurs qui doivent décider. Qui doit prendre une bonne décision, mais il doit décider. Et c'est la différence avec le savant. Le politique, lui, doit décider. Il est là pour prendre une décision. Et c'est tout l'intérêt. Il est éclairé, mais il décide. Alors que l'expert, lui, eh bien, propose des options et essaye de guider, mais il ne décide pas.
Cédric Villani, Yvonne Ledin évoquait tout à l'heure le rôle des journalistes et la façon de restituer l'expertise. Est-ce que pour vous, vous avez trouvé que la manière dont les choses étaient restituées ne correspondait pas à la réalité ? Est-ce que les médias savent se saisir de l'expertise et est-ce que les experts savent parler aux médias ?
Les deux sujets, comment les médias traduisent les débats et comment les experts parlent aux médias, sont chacun un grand sujet en soi. Pour ce qui est de la façon d'un expert de parler aux médias, je me souviens que dans le temps, alors que j'étais mathématicien, j'avais suivi une formation offerte par le CNRS à certains directeurs ou cadres de laboratoire, dont le thème était vraiment l'interview scientifique, et dans laquelle C'était tout un exercice de se plonger dans le bain d'une interview et de se mettre à la place aussi de l'intervieweur et de voir à quel point le monde dans lequel il s'est retrouvé était différent de celui dont on avait l'habitude en tant que scientifique. Il y a de vraies différences et de vrais réflexes qui vont changer. Par exemple, il est tout à fait naturel, quand vous êtes scientifique et que vous expliquez un raisonnement scientifique, de commencer par tout raisonnement, argument 1, argument 2, argument 3, etc., et à la fin d'en tirer votre conclusion. Le code de la communication politique est exactement le contraire. Voici ma conclusion et voici pourquoi je pense cela. Mais il faut que dès le début, on sache de quel côté vous vous situez. On pourrait continuer longtemps, mais il y a un certain nombre de codes qui sont assez différents entre la communication scientifique, entre scientifiques, et celle qui s'adresse aux médias. Maintenant, par rapport à la façon dont les médias ont rendu compte des discussions scientifiques, je dirais qu'on a eu tout l'éventail. Et certains journalistes scientifiques, quand on discute avec eux, on voit qu'ils sont absolument au courant de tout, y compris des nuances, de l'histoire du sujet, de tel ou tel article qui a été publié. D'autres qui sont vraiment extrêmement caricaturaux dans leur façon de faire. Non mais un tel a raison ou pas, alors est-ce que le ministre s'est trompé, que le président a dit, et où il s'agit vraiment de recherche de sensationnel, de recherche d'étincelles qui va faire propager les nouvelles. Et là, vraiment, il y a eu absolument de tout. Les parties les plus déstabilisantes venant toujours du monde de l'audiovisuel, de la télévision et plus particulièrement des chaînes d'information, et les parties les plus construites d'habitude venant de la presse écrite. C'est pas une règle générale, ou de la radio, variable d'une radio à l'autre, mais il y a eu des mondes extrêmement différents dans les médias. J'aimerais insister sur quelque chose maintenant et qui fera écho à ce qui était dit il y a quelques instants. Dans nos carrières scientifiques, nous savons bien, scientifiques, à quel point le débat fait partie de la vie. Et ça fait partie aussi de notre fond de culture scientifique, les grands débats historiques dans lesquels tel grand, tel immense scientifique s'est planté, dans lesquels une controverse a duré un siècle, ainsi de suite. Ça m'arrive régulièrement dans les conférences, ou encore il n'y a pas longtemps, j'ai fait une petite série d'articles pour le magazine In Corsica, revenant sur des polémiques historiques qui ont été parfois violentes, dans lesquelles les instruments, les ingrédients sont toujours instructifs et qui ont fait intervenir certains des meilleurs scientifiques de leur temps, parfois le meilleur du monde, qui se retrouvent à se tromper. Et c'est normal, on s'est habitué au fait. En science, on prend toujours des risques parce qu'on affronte l'inconnu, on fait des hypothèses qui peuvent être audacieuses, des fois on se trompe. Toujours, c'est le consensus qui arrive à démêler les choses. Ça peut prendre des jours, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. Et c'est pour ça qu'une polémique en soi n'est pas quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de dramatique. Il faut dédramatiser ce genre de choses. Un tel pense cela, tel autre pense ceci, ben c'est la vie. Confrontons. À l'Office parlementaire scientifique, à l'OPEXT, on a l'habitude d'ailleurs d'organiser nos deux auditions en contradictoire, ce qui n'est pas du tout classique dans le monde parlementaire, aussi afin de bien faire que soient présents les voix contradictoires scientifiques quand il y en a, et de pouvoir faire se répondre les uns et les autres. Madame Ledain, vous citiez tout à l'heure les semences. De tout mon mandat à l'OPEXT, l'audition la plus dure, ça a été celle sur les plantes génétiquement modifiées. Et sur les new breeding techniques, comme on dit, les nouvelles techniques de semences. Nos tables rondes, à la fois sur, il y avait une table ronde sur les aspects purement techniques, sur les aspects économiques, sur les aspects sociaux, qui étaient passionnantes, des opinions contradictoires. Les deux rapporteurs, à l'issue des auditions, étaient sur des positions très différentes. J'ai dû moi-même, avec le premier vice-président Gérard Longuet, faire la négociation du rapport, phrase après phrase, mot après mot, jusqu'à aboutir à ce qui était une forme de consensus.
Mais est-ce que cette maîtrise justement des contradictions, c'est quelque chose qui peut être fait dans l'espace médiatique? Là, on parlait d'un cercle d'initiés à l'OPEXT, où on a un certain niveau de formation, d'habitude et de procédure ou de méthode. Est-ce qu'à niveau de Ledain, vous parliez des...
Conviction, pardon, je passe la parole tout de suite, mais c'est ma conviction que au moins, nous pouvons faire sentir quel est le débat médiatiquement. D'ailleurs, toutes nos éditions sont publiques. Pas en disant, il y a des sujets sur lesquels il y a une incertitude. Ne pas dire, voilà notre opinion que telle est la vérité, mais dire, par exemple, il y a une théorie majoritaire et une opinion qui est un dissensus, qui est minoritaire, mais qui existe quand même. Et ainsi faire sentir qu'il y a une pédagogie de ce débat.
À niveau de Ledain.
Sachant qu'à la fin, ce sera le politique qui décide.
toujours.
Et pour lui...
Le scientifique conseille, le politique décide.
Voilà, les experts conseillent et le politique décide. Et quand on prend une décision, elle va avoir un impact immédiat, y compris pour sa propre carrière, si elle est appréciée ou pas appréciée, puis des impacts dans le futur, à plus ou moins long terme. Et ça, tout le monde l'oublie. C'est-à-dire la faiblesse du politique, il omet cette réalité qui est qu'une décision politique, elle va impacter l'avenir. Il ne sera peut-être plus là, cette personne, mais il sera peut-être encore là. Moi, je voulais dire quelque chose par rapport à ça. En 2006-2007, je ne sais pas très bien, il y a un gouvernement qui a créé, auprès du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Institut des hautes études scientifiques et techniques, l'IHESP, l'IHEST, excusez-moi, qui avait pour fonction, à l'époque, donc le monde a changé, de faire en sorte que le monde extérieur, c'est-à-dire le monde des décideurs économiques et politiques et juridiques, donc des décideurs, des cadres dans des entreprises, dans des administrations, soit mis en contact avec des scientifiques pour que ceux-ci leur montrent ce que c'est que le monde de la science et l'expertise et de la complexité, du pas de temps. Et c'était plutôt sympathique et plutôt une bonne idée. Mais je pense que 15 ans après, il faudrait rajouter à l'IHEST la fonction de former les scientifiques à ce qu'est le monde extérieur, à ce qu'est le monde du droit, ce qu'est le monde des médias, ce qu'est le monde de l'entreprise, qui n'en ont pas la moindre idée, sauf ceux qui y vont parce qu'ils aiment ça. Mais je crois que, par exemple, l'État créerait, le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche créerait cette deuxième phase de l'IHEST, ça lui donnerait de la puissance, et notamment en disant que toute personne qui vient d'être nommée professeur des universités ou directeur de recherche au CNRS, à l'INSERM, à l'INRA, etc., eh bien, une fois qu'il a franchi cette étape, qui est une étape de validation par les pairs sur les compétences scientifiques, devrait passer par une année de formation à l'IHEST pour comprendre profondément ce qu'est le monde de l'administration, du politique et du droit. Et ça, c'est quelque chose qui serait une immense révolution, parce qu'on a les instituts de hautes études de défense, par exemple, il y en a plein. Mais pour la science, les scientifiques sont seuls au monde face au monde.
D'accord.
Et avec la multiplication des comités d'experts, quand même. Il y en a vraiment, le professeur Delprécy en parlait. Il y a une quantité de hauts conseils, il y a une quantité d'institutions. Est-ce que vous et finalement, on est un peu perdu, quoi.
Professeur, est-ce que vous pensez que ça nuit, cette quantité d'expertise, ou c'est comme ça, c'est le propre de la science que d'avoir une pluralité de centres d'expertise et donc d'émetteurs, sachant quand même que lorsqu'on est rentré dans cette crise, on était dans quelque chose que personne d'entre nous n'avait vécu, et le premier d'entre eux, c'était le président de la République. On a eu le sentiment qu'il vous sacralisait, c'est-à-dire que dans la communication du politique, on n'avait pas un message qui consistait à dire le scientifique conseille le politique. Non, c'est le politique va procéder du scientifique à travers des décisions rationnelles. C'est comme ça que la communication a été établie. Puis, à fur et à mesure où on est rentré, notamment dans le déconfinement, on a senti une prise de distance. Mais au départ, on a eu dans la communication l'idée que c'était la science qui allait faire le politique.
Alors, moi, je pense qu'il faut là aussi beaucoup d'humilité. Reconnaissez que ce n'était pas dans l'agenda de nos politiques d'avoir la crise Covid sur 2020-2021. Ce n'était pas prévu dans leur agenda, ni en France, ni à l'étranger. Je dois ressouligner, ça a déjà été dit, mais je veux le dire d'un côté scientifique, tout ce qui a été raconté sur un troisième pouvoir médical ou scientifique en France dans la période du printemps 2020, c'est faux, c'est archi faux. Les médias se sont lancés là-dedans. Non, on est une fois de plus une belle démocratie. C'est aux politiques de décider. Les experts scientifiques et médicaux sont là essayés pour seulement de l'éclairer. Et il n'y a aucune ambiguïté sur le sujet. Alors, un deuxième point de difficulté dans la relation entre science et politique, c'est la notion du temps. Je voudrais m'y arrêter juste une seconde. La notion du temps. Les médias, c'est un temps de quelques heures ou de quelques jours. Le politique, c'est une de quelques jours à quelques semaines, une semaine maximum, et plutôt quelques jours. Bon. Et le scientifique, c'est des mois, c'est des années pour construire. Sur la discussion, par exemple, on a une chance inouïe d'avoir eu des vaccins aussi rapidement et des vaccins aussi efficaces. Mais regardez, pour les premiers médicaments dirigés contre le Covid, spécifiques qui vont sortir là, incessamment sous peu, à partir de novembre ou de décembre 2021. C'est donc 18 mois. Et on est dans le temps normal. Je vous rappelle que sur les trithérapies dans le VIH, il a fallu 13 ans. L'hépatite C, il a fallu 8 ans. Et finalement, sur les médicaments antiviraux, il nous faudra 18 mois. Mais quand on parlait de ces sujets avec les autorités sanitaires, les autorités politiques, fin mars 2020, alors que nous étions en plein confinement, alors que les trains commençaient à partir de Paris pour évacuer les patients et que les courbes commençaient à monter. Vous voyez la difficulté que cette notion du temps n'est pas la même. Moi, je savais qu'il nous faudrait du temps. Mais je comprenais également que le politique avait besoin de réponses qui soient évidemment beaucoup plus à court terme. Donc cette notion du partage du temps et de la vision du temps, et inversement, je le reconnais aussi, le politique a la capacité de, quand il prend une décision, il la prend vite. Hein, il la prend beaucoup plus vite que le milieu scientifique et médical en général. Donc ce jeu autour du temps, de relation entre la science et le politique, est un élément important, mais sur lequel il y a déjà eu de très beaux écrits, hein, d'ailleurs, hein, là-dessus. Mais j'insiste bien parce que je l'ai retrouvé sur ce point. Le troisième point, et j'arrête après, c'est la notion d'anticipation, qui est un point, là aussi, très, très délicat. Hein. Vous vous souvenez tous de ces fameuses courbes qui sont... alors, je parle devant... un mathématicien de très grand renom, mais la différence entre une courbe linéaire et une courbe logarithmique, où on voit le début d'une courbe qui est très basse, et puis ensuite ça monte très très vite.
Ou exponentielle, ça dépend comment on la
voit. Ça dépend comment on la voit, tu as raison. Mais là aussi, faire comprendre ça, que pendant une phase où on a l'impression que tout va bien, mais où le virus circulait, et que quelques semaines plus tard, les choses vont être beaucoup plus difficiles. Là aussi, il nous a fallu du temps, entre guillemets, pour que les langages, pour que la compréhension puisse s'exprimer avec le politique. Cela dit, je m'empresse de dire que les scientifiques ont un peu bougé pendant la crise, les politiques ont beaucoup bougé pendant la crise aussi, et se sont complètement culturés, je dirais, dans une série de questions autour de ça. Mais il y a des points qui restent quand même des points d'intérêt et qui doivent faire réfléchir sur... finalement, quelle va être la méthode pour la suite, hein? Qu'est-ce qui va être le mieux ou le moins mal à mettre en place pour à la fois réponse aux crises et de façon plus générale pour le Conseil politique?
L'anticipation, Marie Grosset, ça fait partie des objets de votre rapport. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on a besoin de nouer des partenariats plus approfondis et qu'au fond, d'avoir dans des moments de crise beaucoup plus de confiance qui préexiste, au fond, pour que la collaboration soit plus fluide dans ces moments de tension, en fait?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça n'est pas propre à l'expertise et à la structuration de l'expertise. Et cette idée traverse toute notre étude et toutes les recommandations que l'on fait. On ne peut jamais se préparer totalement à quelque chose. La crise, par définition, c'est quelque chose de nouveau et quelque chose qui surprend. Mais il y a des choses que l'on peut anticiper et surtout, on peut chacun se mettre d'accord sur les compétences des uns et des autres, les rôles, clarifier, coordonner, préparer des schémas de coordination, mieux anticiper, et c'est l'objet d'un certain nombre de recommandations que nous faisons effectivement, notamment dans le cadre de l'expertise, où il nous semble que les différentes agences que nous avons et les nombreuses agences dont nous disposons ne sont peut-être pas totalement dans une dynamique de préparation de crise, ou alors de certaines crises très particulières, mais c'est toujours un exercice difficile que d'envisager l'impossible. Qui aurait pu imaginer il y a quelques années ce qui vient de nous arriver? Eh bien, personne n'avait vu avec cette ampleur-là, ou alors avait vu des difficultés, mais sans songer à pousser le schéma aussi loin que la crise serait mondiale, que la pénurie de masques et de médicaments serait mondiale, et que les difficultés comme ça seraient très difficiles à surmonter. Et donc, cette capacité d'anticipation, elle est déjà très forte, par exemple, au ministère de la Défense, pour certains préparations de conflits. Il faut la généraliser, et c'est une culture de crise qui existe déjà, mais qu'il faut sans doute généraliser. D'ailleurs, les pays qui sont souvent confrontés à des crises graves sont parfois mieux armés, et on a noté que dans les pays d'Asie, où ils avaient vécu l'épidémie de SRAS, ils étaient un peu mieux armés pour gérer cette épidémie. Et donc, nous avons vécu ce cataclysme, mais nous devons maintenant faire un gros travail d'évaluation. C'est ce que nous préconisons aussi dans l'étude. Et pour mieux anticiper et mettre l'ensemble des acteurs, mobiliser l'ensemble des acteurs, car c'est aussi quelque chose que l'on dit dans l'étude, les compétences sont multiples. Il n'y a pas que l'État, il n'y a pas que les scientifiques. Et la gestion de la crise sanitaire, elle a été vraiment si les résultats n'ont pas été si mauvais, c'est parce que l'ensemble de la population et l'ensemble des acteurs se sont mobilisés, et les précédentes tables rondes de la journée le démontrent.
Cédric Villani, ce morcellement des centres d'expertise, est-ce qu'il nuit précisément au façonnement de cette culture de la crise ?
D'abord, par rapport à la culture de crise, j'insiste sur le fait qu'il y aura un avant et un après. Vu la façon dont... Et il va falloir des années, certainement, avant qu'on tire tous les enseignements, en particulier au plan humain, au plan social, de ce qu'a été cette crise. Et au niveau institutionnel, ce qu'on a vu, c'est cette grande pluralité de comités, d'instances, certaines qui existaient déjà, mais dont le message a été mis en valeur au moment de cette crise, d'autres qui ont été créées à l'occasion. Ce n'était pas toujours facile de s'y retrouver, y compris pour nous. Quand nous avons travaillé sur le sujet à l'OPEX, en particulier nous étions chargés de l'évaluation de la stratégie vaccinale du gouvernement, c'était un véritable casse-tête que de reconstituer dans le puzzle de cette démocratie sanitaire qui fait quoi, qui a quel rôle. Et dans certains cas, il y avait un comité dont on découvrait qu'il était en doublon avec un autre, parfois un comité qu'on croyait existant qui en fait n'existait plus, ou le contraire. On a vu le comité, par exemple, le comité citoyen qui est apparu, celui des citoyens tirés au sort, qui est apparu puis qui a disparu, etc. etc. C'est pas grave qu'il y ait une multiplicité de comités, pourvu qu'on s'y retrouve et qu'on comprenne bien quels sont leurs rôles respectifs et qu'il y a une fonction d'intégration et de présentation du débat. Et c'est pas grave s'il y a quelques divergences d'appréciation, tant qu'on s'y retrouve, qu'on peut apprécier si c'est une divergence qui semble grave ou pas grave. Et il vaut mieux que les différents partis expriment chacune leur point de vue de façon sincère, plutôt que se retrouver avec une institution qui s'aligne sur l'autre par crainte de paraître bête, et de sorte que finalement on perd tout le bénéfice de la pluralité. Je voudrais réinsister sur ce qu'évoquait tout à l'heure Jean-François Delfrécy par rapport aux courbes. Il y a toute une question de pédagogie sur ce que c'est qu'une courbe, comment il faut interpréter les paramètres, qui là aussi on a vu que d'abord qu'ils ont été sous-équipés. Institutions comme Santé publique France a montré les plus grandes difficultés à faire des graphiques parlants ou à passer les messages. Certains outsiders sont venus hacker le système, si je puis dire, avec parfois des outils très simples, des graphiques ou ce que vous voulez. Ça a été une leçon d'humilité institutionnelle aussi. On a vu certains paramètres se retrouver dans le discours des décideurs, hein, entendre des premiers ministres de tel ou tel pays parler du coefficient R0, parler de la vitesse de propagation exponentielle et des conséquences. C'était quelque chose qui est extrêmement rare du point de vue, scientifico-politique. Et là aussi, c'est quelque chose qui a été extrêmement instructif. À l'Office, à l'OPEX, on était armés pour aborder ça, parce qu'on avait fait un travail préliminaire qui était le recrutement de quelques scientifiques à plein temps. Ce travail n'existait pas auparavant, il y avait des administrateurs. Il y avait des administrateurs qui étaient compétents, mais qui ne baignaient pas dans la science. Il y a eu c'est un travail qu'on a fait ces dernières années, Gérard Longuet et moi-même à l'OPEX, que le recrutement de 3-4 postes de scientifiques à temps plein, avec thèse et tout ce que vous voulez, et qui ont pu faire ce travail de veille, d'approche, de recension et d'aller lire directement dans la littérature scientifique, sans quoi on n'aurait pas pu aborder cette crise sereinement. Oui, on voit qu'il est important aussi que les institutions se musclent là où elles ont besoin de le faire et puissent acquérir les moyens de leur mission.
Annie-Yvonne Le Dain, un des absents qu'on a vu pendant cette crise, c'était quand même le citoyen aussi. C'était le citoyen entre l'expert et le politique. Jean-François de Delfrécy, notamment, a proposé à plusieurs reprises d'essayer de les embarquer d'une manière ou d'une autre. On a vu que ça s'est fait pas vraiment, et quand on l'a fait, ben, vous l'évoquez sur la vaccination, ça n'a pas vraiment marché. Comment vous expliquez qu'on ait autant de mal, alors on est en situation de crise, mais d'une manière générale, on a quand même du mal à embarquer le citoyen au niveau de l'expertise?
Oui, moi, je le constate maintenant, on est 66 millions en France, et donc sur un territoire qui est assez grand tout de même, et donc c'est compliqué. Le tirage au sort, c'est bien, mais on en tire 100, on en tire 1000, on en tire 3000, là, c'est au mathématicien que je m'adresse. Et si on dit c'est 3000, on les réunit où et comment, et on les fait parler où et comment. Donc, on a des vraies questions. Et Internet ne résout pas tout, parce que ceux qui vont se mobiliser sur Internet seront ceux qui sont motivés pour qu'on aboutisse à telle conclusion plutôt que telle autre. Une société, c'est bien plus complexe que ce qu'on imagine. Enfin, c'est pas, l'organisation en classe sociale ou l'organisation échantillon politique n'est pas le seul. Il y a les âges. Mais après, il y a les âges, il y a les sexes, il y a tout un tas de trucs. Mais c'est difficile de faire un comité citoyen qui soit représentatif. La démocratie représentative, je pense qu'elle n'a pas complètement terminé sa place sur Terre. La démocratie directe, moi, je m'en méfie énormément. Parce que celui qui parlera le plus fort, parlera le plus fort. En démocratie représentative, mine de rien, il y a une forme d'égalité de fait. On est chacun différent, mais on a chacun une voix. Donc, je crois qu'il faut vraiment réfléchir. Il y a actuellement un emballement un peu médiatique sur la démocratie directe, sur le citoyen au cœur du débat, mais on est 66 millions et on se découpe comment ? Eh bien, moi, si on arrive à la parité, par exemple, la vraie parité entre les hommes et les femmes dans les assemblées, et on a un mal de chien en France à y arriver, ça serait déjà un premier débat. Qu'on ait plus de jeunes, ce serait déjà également une première fonction. Mais les jeunes, ils sont moins armés que d'autres. Moi, je pense que, par exemple, réduire le mandat des parlementaires, y compris les sénateurs, à 3 mandats successifs, ça serait un progrès. Mais, il faut changer tout le temps, il faut des citoyens qui contrôlent tout le temps, là, le système se ralentit à une vitesse phénoménale. Et effectivement, ça fera le bonheur de nos médias, parce qu'il y aura beaucoup de bruit.
Jean-François Delfrécy, lorsque vous avez fait ces propositions pour essayer d'une manière ou d'une autre d'associer ces citoyens, vous en attendiez quoi ? Vous en attendiez, le développement d'une vision plus à 360, ou vous en attendiez une plus forte légitimité en sus du cadre démocratique qui permet déjà à ceux qui prennent des décisions d'être investis d'une autorité légitime ?
Il y a une seule vraie démocratie qui est la démocratie issue des élections. Il faut être clair. Donc le mot démocratie en santé, probablement un terme, et je comprends que des députés ou anciens députés élus s'interrogent sur ce terme. Je préfère le mot anglais qui s'appelle social participation et qui reflète bien plutôt ce qu'on attend de ce type de débat, c'est-à-dire comment un éclairage citoyen, à côté de l'éclairage du scientifique et à côté du décideur, qui le reste de politique, peut, sur des sujets complexes, éclairer, indiquer aux scientifiques que leur langage est probablement trop compliqué, qu'on peut le simplifier. Et ce dialogue entre citoyens et scientifiques est un temps, entre guillemets, qui est un temps, par certains côtés, démocratique, mais qui n'est pas issu, évidemment, d'un temps d'élection. Donc, j'y crois, parce qu'on l'a montré, par exemple, dans les États généraux de la bioéthique, avant cette crise, et on voit ce que ça a pu apporter, y compris allant jusqu'au bout, 4 ans plus tard, de ce qu'il y a dans la loi de bioéthique, mais il faut aussi être prudent, c'est évident, un expert reste un expert, il a plus d'expertise que le citoyen lambda sur tel ou tel type de sujet, et le politique, c'est à lui de décider, et c'est lui qui va décider. Donc c'est un équilibre qui est difficile, qui a été réussi, il y a quelques grandes démocraties qui l'ont fait, il y a des gens aussi qui... Il y a des endroits un peu inattendus où c'est arrivé. L'OMS a fait récemment le point sur l'ensemble des grandes expériences de social participation. Et je pense qu'il y a une place là, mais qui a eu lieu dans la crise. Elle n'a pas eu lieu au niveau national, comme on l'avait demandé. Et c'est peut-être une bonne chose qu'elle n'ait pas eu lieu au niveau national. Elle s'est faite au niveau des grandes métropoles ou de certaines régions, sur Lyon, sur Grenoble, sur Rennes, sur Strasbourg, où il s'est monté un certain nombre de comités de ce type. On est en train d'en faire le recensement. Et c'est probablement quelque chose d'intéressant. Donc voilà, moi je suis pour qu'on aille vers cette direction sur certains sujets, et en particulier dans le domaine de la santé. Je crois que c'est peut-être pas dans tous les domaines, mais le faire avec attention et ne pas confondre ça avec l'outil démocratique. Je crois qu'il faut être le mot social participation.
Mais au fond, on a quand même vu dans cette crise qu'il y avait quand même un point de complexité, on se sentait quand même très souvent démunis par rapport aux présentations des expertises. On voyait bien des avis divergents. Avoir un esprit critique, développer un esprit critique lorsqu'on est un citoyen lambda, comme nous le sommes, on reste quand même très très éloigné de tout ça. Le politique est peut-être un peu plus instruit, mais nous, nous sommes quand même très loin.
Non, alors, juste pourquoi aller vers eux et essayer d'avoir un peu de social participation, y compris au sein des crises ? c'est que ces crises sanitaires ne sont que sanitaires au départ. Elles deviennent très vite sociétales, économiques et politiques, parfois. Bon. Et donc, le mode de réaction, évidemment, touche la société civile. Et donc, c'est important d'avoir son avis sur un certain nombre de sujets. Et le deuxième élément, c'est que on pense tous, et moi je l'ai pensé, hein, c'est un mea culpa de ma part, on pense à la crise comme un événement aigu. Hein, et vous-même, vous avez en tête la crise, c'est un événement aigu. Or, regardez, nous sommes à 20 mois de cette crise sanitaire. Elle n'est pas terminée. Nous sommes dans une situation apaisée. Mais elle est dans la durabilité. Et sur la durabilité, qu'est-ce qui se construit ? Ça se construit sur la confiance. Et pour la confiance, il faut forcément du dialogue avec le citoyen.
Un dernier mot, Cédric Villani, on va conclure.
Le mot de la confiance est un mot-clé vital en matière de crise, bien sûr. On sait que la France a un rapport particulier à la confiance. Et depuis longtemps, des sociologues comme Algan, Cohen, Cahuc ont travaillé sur cette société particulière de défiance qu'on a en France. Tout récemment, une analyse qu'ils ont publiée, certains d'entre eux, dans le cadre dans une note du Conseil d'analyse économique, montre que la chute de confiance qu'il y a eu en France pendant le deuxième semestre 2020, était bien plus marquée qu'en Grande-Bretagne ou en Allemagne ou dans d'autres pays européens, alors que, par exemple, la gestion de la crise en France a été bien meilleure que ce qu'elle a été en Grande-Bretagne, par exemple. Ça montre bien que c'est ce qui est très dur ici, c'est de travailler sur un contexte de défiance préexistant. Et tout notre enjeu, c'est pas seulement comment on va mieux faire pour gérer la crise la prochaine fois, c'est aussi comment, dès à présent, hors temps de crise, travailler à renforcer la confiance entre le citoyen, le scientifique, les institutions, autant que possible. Et en particulier, les juges, tout ce qu'on veut, la défiance envers les institutions nourrit la défiance envers tout ce qui est officiel. Pendant quand on travaillait au début sur la vaccination, un de mes leitmotifs, c'était de dire, écoutez, le vaccin, ce n'est pas le vaccin du gouvernement, c'est le vaccin des scientifiques qui ont cherché pendant tant et tant, avec des doutes et tout ça, et qui ont arrivé à mettre ça. Mais s'il vous plaît, ne croyez pas qu'il s'agit là de quelque chose d'officiel, etc. etc. Et ce travail de recoudre autant que possible la confiance institutionnelle, il faut que nous y prenions tous notre part, en crise et hors crise.
Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cet échange. Merci d'avoir suivi ce débat. La journée de réflexion continue avec un autre échange autour du plan de relance, comment les États européens ont géré la crise. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.